Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 27 septembre 2022. Hier soir, le Dow Jones est entré en bear market. Ça n'est pas non plus une énorme surprise compte tenu du fait que le S&P 500 y est entré au mois de juin. Fallait bien que ça finisse par se produire. Du coup, tous les experts en statistiques des 854 dernières années sont sortis du bois pour nous apprendre que lorsque le Dow Jones entre en bear market, en général, les semaines qui suivent sont compliquées. Mais sur le long terme, c'est quasiment toujours positif, ce qui résume la théorie de la façon suivante. Si tu achètes à l'entrée en bear market en vacances, tu partiras et quand dans un an tu reviendras, plus riche tu seras. Sauf que l'on a une vision à 18h. Le premier jour de trading de la dernière semaine de septembre était donc sous le signe des ours. Sous le signe des ours tout d'abord parce que le Dow Jones donnait des signes de faiblesse. La faiblesse du pétrole, la baisse du pétrole impactant le secteur tout entier, et les craintes de récession atteignant leur paroxysme à la vitesse de la lumière, alors qu'il y a encore une semaine on avait encore l'outrecuidance de croire qu'on allait s'en sortir sur une jambe et sans forcer. Et puis sous le signe des ours parce que la livre sterling s'effondrait et que même si habituellement le budget britannique n'intéresse à peu près personne, là du coup le fait que l'on commence à parler de taux à 7% en 2023 et d'une augmentation de 73% des coûts hypothécaires pour l'année à venir, on a commencé à flipper un tout petit peu. Et même si l'on ne parle que du UK, les Américains ne peuvent pas s'empêcher de se dire que c'est un peu ce qui les attend dans les mois à venir et que, comme la Fed ne veut pas lâcher le morceau, on a quand même des risques que la stratégie de hausse des taux aille un peu trop loin et que dans 9 mois, on se retrouve à pédaler dans l'autre sens, à la vitesse d'un coureur du Tour de France qui doit rattraper le peloton et qui n'a mangé que des céréales ce matin. Au vu de l'utilisation massive du mot « récession » dans les médias depuis vendredi dernier, on ne pouvait pas non plus s'attendre à une journée de folie sous l'égide des bêtes à cornes. Une fois n'est pas coutume, ça s'est un peu mieux passé en Europe. Le CAC 40 finissait quand même au plus bas de l'année, mais pour être franc avec ce qui nous attend cet hiver, le nombre d'histoires qui commencent à surgir dans la presse à propos des commerçants qui doivent fermer boutique à cause d'une multiplication par 10 de la facture d'électricité, si ce n'est plus, et à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie, on aurait pu s'attendre à pire que ça. D'ailleurs, l'Italie a même terminé en hausse. Du coup, alors que l'Europe limitait la casse, les USA continuaient leur descente, mais on sentait quand même que le sentiment commençait à tourner. C'est vrai, ça fait depuis mercredi dernier que l'on est en pleine déprime, et maintenant que les supports ont lâché, définitivement tout le monde commence à se demander s'il n'y a pas un point bas à trouver pour envisager un nouveau rebond du type de celui qu'on a vécu à la mi-juin. Ce qui est globalement rassurant dans ce marché, c'est que l'on refuse de rendre les armes et que le mot rebond est sur toutes les lèvres à la première occasion. Et tant mieux, parce que quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, eh bien, on a bien raison de penser ce qu'on pense quand même. Et même si l'on sait que l'on n'est pas encore sorti de l'auberge et qu'il y a même un paquet de chemins à se farcir avant qu'on ait retrouvé une économie normale, une inflation normale, le plein emploi, la paix dans le monde, une énergie bon marché, que l'on parvienne à résoudre la faim dans le monde, le réchauffement climatique et que la moyenne de QI de nos classes politiques parvienne à dépasser le chiffre mythique de 14, il y a quand même pas mal de gens qui veulent continuer à voir le verre à moitié plein. Voici donc le chapitre bonne nouvelle. Tout d'abord, il y a les Chinois qui commencent à rouvrir Macao et ses casinos. Apparemment, le Covid n'aime pas trop les jeux de hasard et il semblerait qu'il soit moins efficace autour d'une table de blackjack, permettant ainsi aux opérateurs de retrouver une de leurs sources de revenus importantes. L'ensemble des casinos a cartonné hier soir et ça faisait donc une bonne nouvelle. Seconde bonne nouvelle, la volatilité repart à la hausse et on aime toujours que ça monte pour trouver des bons niveaux de rebond. On dit qu'en général, lorsque la VIX atteint les 40%, c'est presque à chaque fois une bonne opportunité d'achat. Mais là, il y a un gars, il a trouvé autre chose de presque mieux. En fait, pour une raison que l'on ignore, cette année, lors des ventes de panique ou de périodes dépressives, la volatilité ne veut pas remonter comme d'habitude, comme si l'on se refusait de paniquer, comme si tout le monde avait lu Warren Buffett ces 18 derniers mois et que soudainement, après avoir voulu être très 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 très, très riche en moins de 3 jours en achetant des calls avec un strike à 100 000 et une échéance dans 3 semaines sur le Bitcoin, que soudainement on était d'accord de devenir riche mais seulement dans les 64 prochaines années en appliquant toutes les citations de Monsieur Warren Buffett, a commencé par acheter seulement des actions que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché fermait pendant 10 ans. Donc, du coup, la volatilité ne monte plus autant. Et du coup, le gars en question a découvert que lorsque nous avons plusieurs clôtures au-dessus des 30% sur l'indice VIX, c'est un signal d'achat qui marche presque à tous les coups. Enfin, qui marche tout le temps, sauf les fois où ça fonctionne pas. Là, on vient de clôturer deux fois au-dessus des 30, et si ça se trouve vendredi, c'est bull market. Et puis, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a eu un des stratèges bullish de JP Morgan, oui, parce qu'ils ont deux équipes, hein, les bullish et les bearish, Marco Kolanovic, qui est bull depuis le début de l'année et qui persiste et signe. Kolanovic pense que les USA vont échapper à la récession, même si c'est par les poils, et qu'actuellement, il y a 17% de bullish dans le marché, et que c'est trop peu. C'est donc un signe qu'il faut racheter. Reste à savoir si c'est ce soir ou s'il faut attendre les 5 jours de clôture au-dessus des 30% de volatilité. Bref, si l'on regarde le début de la séance d'hier matin, on aurait pu se dire que c'était la fin et que la perspective de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre était plutôt intéressante, mais aussi fou que cela puisse paraître, ce matin, on voit plus de commentaires constructifs que le commentaire qui nous pousse au Xanax. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais je n'arrête pas de tomber sur un nouveau chiffre magique qui motive tout le monde, les 3585. En effet, les 3585 correspond au niveau de la moyenne mobile des 200 semaines. Oui, autrement dit, quand il n'y a plus de support, il y en a encore, on peut toujours trouver autre chose, une moyenne mobile plus longue ou un chiffre plus mythique. Et si les 3585 cassent à la baisse, il restera toujours la moyenne mobile des 200 mois qui passe à peu près 30% plus bas vers les 2500 en gros. Il y a toujours de quoi vouloir croire à nouveau, et puis en plus la presse s'y met puisque pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé un journal qui a titré ce matin « Les marchés jettent l'éponge ». J'attends donc que le matin dimanche fasse un article sur le sujet et j'achète des calls. Ce matin, l'Asie est partagée. On constate un léger rebond à Tokyo pendant qu'Hong Kong reculait comme d'habitude. Mais puisque ce matin semble voué uniquement à la chasse à la bonne nouvelle, on notera que le Bitcoin a encore une fois tenu les supports et la crypto-monnaie rebondissait gaiement à 20 000 dollars. Il faut tout de même noter que c'est vraiment facile de traiter les cryptos. T'achètes le Bitcoin à chaque fois qu'il va à 18 500 et tu revends le lendemain 1 500 $ plus haut. J'espère que vous saisissez toute l'ironie de mes propos, histoire que je ne me prenne pas un procès le jour où ça ne fonctionne pas. Mis à part ça, le pétrole est toujours à 76 $ et le litre d'essence en Suisse se rapproche des 2 francs. À certains endroits, il est tout proche de passer en dessous, mais on sent bien que psychologiquement, ça leur fait mal de vendre le litre à moins de 2 balles. C'est pas facile pour eux, hein. Ils s'étaient habitués à profiter du consommateur. Et c'est jamais facile quand on te reprend ton jouet. L'or est à 1 638 $ et le cuivre est presque en train de tenter le rebond. Tout va presque trop bien ce matin et tout va presque trop bien par rapport au début de séance d'hier. Même les futurs n'arrêtent pas de monter depuis que je suis debout. Dans les nouvelles du jour, on notera que la Banque mondiale coupe les prévisions de croissance de la Chine. Du coup, la Chine serait derrière le reste de l'Asie au classement. Il y a aussi le fabricant chinois de voitures électriques, Li, qui revoit ses prévisions de livraison à la baisse. Snowden, qui devient russe. Le hedge fund manager Paulson, qui s'inquiète du marché immobilier et qui pense que l'or est un bon investissement. Plus ou moins ce qu'il pense depuis la période des subprimes. Il y a aussi Walmart, qui bosse avec Roblox pour entrer dans le métaverse. Et l'IPO de Porsche, qui devrait sortir tout en haut du range, tellement c'est sursouscrit. Un peu comme si tu veux acheter une 911 et la voir le mois prochain, tu peux toujours rêver. Du côté des banquiers centraux, il y a Bostich qui a à nouveau parlé pour nous dire que selon lui, le peuple avait encore confiance en la Fed. On ne sait pas d'où il tient son sondage et s'il s'est contenté d'interroger son cousin et sa tante, mais il semblerait qu'il y a tout de même des Américains qui croient que la Fed a fait un super job et fait un super job. Et il paraît même que certains pensent encore que l'inflation est sous contrôle et transitoire. Et puis, il y a aussi Madame Mester de la Fed de Cleveland qui pense que l'avenir de l'inflation est très difficile à prédire, un peu comme l'avenir des marchés. Et puis, autrement, il y a la Banque d'Angleterre qui dit qu'elle surveille les marchés de près après la chute de la livre. Sans blague, ils sont vraiment trop forts. Côté chiffres du jour, il y aura les durable goods, les chiffres de l'immobilier et la confiance du consommateur américain. Il y aura aussi plein de types de la Fed qui parleront et surtout un gars qui s'appelle Powell. On s'autorise à penser et à dire que des fois, quand il parle, il peut retourner la tête des investisseurs. En tous les cas, ce matin, nous avons droit à une lueur d'espoir. Les futurs étant en hausse de 0,75%. Qui sait ? Le fond de la tasse qui est au fond du trou n'est peut-être pas si loin. Et puis des fois, c'est quand même plus cool d'être optimiste. Passez une excellente journée et on se voit demain.